déconné quand les Allemands sont partis en Russie. Ils, on leur a donné des vêtements pour eux partir. C'était tout du mouton, mouton. Ils sont venus me montrer, ben, ils venaient au café chez moi. Ils sont venus me montrer leurs vêtements, même les bottes.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel enregistrement que nous faisons à la maison de repos de Jumet, à nouveau pour parler des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Là-dessus, je me demande comment les Allemands collaboraient avec les Rexistes. Ils s'étaient mélangés, ils avaient le même uniforme, etc.
Exactement, je ne saurais pas vous dire, monsieur.
Mais ils étaient bien dans le même camp.
Ah oui, ça oui.
Et ils collaboraient entre eux.
Ensemble.
Et les Rexistes belges avaient des missions données par les Allemands.
Oui. Oui.
Alors, il devait y avoir des échanges de renseignements. Espions contre espions, faux résistants, faux rexistes.
Ben, nous autres, non. Monsieur, pas, hein. On se taisait, hein.
Oui, vous aviez 10 ans. Monsieur. Fallait mieux se taire.
Dangereux, hein, ça.
C'était grave, hein.
Qui c'est qui a pris des risques alors dans les résistants?
Pardon?
Qui a pris des risques dans les résistants, je veux dire, dans votre quartier, à Ransard, chez vous? Vous en connaissiez?
Mais non, monsieur. Franchement pas.
Non.
Non. Non.
Tout sous le manteau.
Non, tout voir, tout entendre et ne rien dire, oui. Parce que c'était dangereux. Votre vie tenait à un fil, hein. Alors...
Comment vous étiez au courant, vous, qui étiez coincé à Charleroi, je dirais? Comment on suivait l'actualité?
Ben, monsieur, mon grand-père était garde champêtre à Pierre-Montchambre.
Ah, oui.
Et j'avais des sons de toutes sortes. Et c'est ça que je sais beaucoup
c'est
de choses.
Oui, c'est pas toutes sortes.
Mais heureusement, je vis assez longtemps
pour s'en souvenir.
Pour le savoir, hein. Sinon, je ne serais plus là maintenant. Hein.
La dernière fois, on avait pas mal parlé de Radio Londres et donc de la voix de la résistance.
Ici, Londres, hein. Ici, oui. Tous les jours, on écoutait Londres.
Ah oui.
Mais à voix basse, hein, parce que si on était prêt, Brendon, là, tchouf, fusillé. Hein.
Et pourtant, tout le monde écoutait.
Ah oui.
Tout le monde écoutait. Ah oui, hein. Il y avait que ça.
Parce que quand il y a eu l'hôpital militaire chez moi, il n'y avait pas moyen de les soigner, donc ils allaient à côté. C'était là qu'ils allaient donc se faire soigner. Et là, il y avait un SS jeune qui demandait à la dame chez qui ils étaient de pouvoir écouter Londres. Elle, évidemment, elle disait, oui, mais écoutez, moi je veux bien, mais c'est moi qui suis responsable. Non, non, vous en faites pas. Il écoutait et il nous a même dit à un moment donné, vous serez bientôt libérés parce que dans quelques semaines, les Américains seront ici. D'après ce qu'il avait entendu au journal parler de Londres.
Aujourd'hui, on est le 6 juin. Les 70 ans qu'il y a eu le débarquement,
oui.
L'appel de De Gaulle, la radio Londres, etc.
Oui.
Vous l'avez tous les trois entendu, c'est...
Oui. Moi, si De Gaulle existerait encore, je vote pour lui.
Pour quelle raison?
Oh, ben c'était un résistant, monsieur. Tout simplement.
C'est
lui qui a créé la France libre, hein. C'est tout.
Oui.
Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en guerre. Qu'est-ce qui
représente? Non, mais pour lui, ça reste. Voilà. Pour moi, hein. Les autres, je ne sais pas. Hein. Pour moi, De Gaulle, c'est précieux. Si j'étais français, je vote De Gaulle.
Ah oui.
Ah, ça, il n'y a rien à faire.
Mais c'est un personnage providentiel dans le contexte. Je veux dire, il incarnait
la liberté.
La sortie, quoi. Voilà.
Oui, voilà. Tout simplement.
Mais aujourd'hui, que nous ne sommes plus en guerre. Personne ne peut endosser une telle cap de gloire, si je puis dire, vous voyez.
Ça reste.
L'attachement à la personne.
Oui.
Après, il y a eu le gaullisme. Le gaullisme, il existe encore quelque part en France.
Vous direz. Eh bien, si j'étais français, je vote Gaulle. De Gaulle.
UMP.
Ah oui.
Oui.
Voilà.
Bon, c'est...
Pour voilà. Le souvenir.
Voilà.
Par contre, c'est en Belgique, je ne sais pas pour qui je voterais.
Voilà.
Parce qu'il n'y a plus personne de malade.
Enfin, c'est difficile et il faut avoir été adulte après la guerre, je pense, pour pouvoir le dire, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire en 37, 38, 39 pour que ça n'arrive pas?
Je ne saurais pas vous dire.
Parce que voilà, nous aussi, on sent que la situation est tendue.
Alors ah ben dit... oui, moi je le dis toujours, nous sommes au même niveau qu'en 40.
Expliquez, c'est quoi le même niveau pour vous?
Ben, la situation... Vous vous rendez compte quelle situation on est maintenant?
Quel point de vue?
Bah, à tout point de vue, politique et... Sauf la nourriture, bien sûr. Mais la politique, c'est épouvantable.
Moi, je vous dis, monsieur, on est heureux maintenant. Vous voulez voter rouge, vous êtes rouge. Vous voulez voter jaune, vous êtes jaune. Vous voulez voter bleu, vous êtes bleu. On est libre, hein?
Oui, mais si on se souvient bien, Hitler, il a été élu démocratiquement.
En Allemagne, oui.
Alors est-ce que c'est une garantie, cette histoire de vote?
Oui.
Oui, quand même, vous pensez?
Oui, il me semble, enfin. Vous dire, monsieur, je vais parler de Charleroi.
Oui.
Est-ce qu'on parle de Charleroi? Le bourgmestre a été élu à 100%. C'est un socialiste.
Ah, les socialistes.
Mais parce qu'ils nous ont amenés mieux... que tous ceux qui étaient avant eux.
Ah oui, donc avant la guerre, les socialistes étaient
moins... Non, même après la guerre. Même après la guerre. Ce n'était pas le même genre. Le socialiste actuellement est mieux que tous ceux qui avaient avant.
Eh bien, je trouve le contraire.
Est plus sérieux.
Sur quels aspects?
Tout point de vue.
Et vous, Madame Gosse, vous dites le contraire. Vous n'avez pas la même perception.
Il me semble. Mais les socialistes, cherchent le roi, ils ont toujours été majoritaires.
Hein? Oui, et ils seront toujours.
Et ils le seront.
Charleroi est rouge et il ne changera jamais.
Non.
Jamais.
Je sais bien que mon groupe est...
Je dis Charleroi, la Louvière et...
Charleroi...
Et le Borinage et autres. Hein? On est rouge et on reste rouge. Hein? Ça, il n'y a rien à faire. Hein?
Pourquoi, à votre avis?
Mais parce que, monsieur...
C'est comme ça.
C'est comme ça.
Mon beau-père était socialiste.
L'industrie...
Son fils devait voter.
Les mines et tout ça sont nés de Charleroi, monsieur. Et le socialiste vient de Charleroi.
OK. Maintenant qu'il n'y a plus de mines, qu'il n'y a plus d'usines ici à Charleroi...
Ça reste.
Vous êtes sûr?
Sûr.
Oui.
D'ailleurs, le bourgmestre de Charleroi actuellement... est nommé par les socialistes. Hein.
Ben oui, c'est un socialiste. Mon mari va voir un jour un monsieur pour qui on travaillait. Et quand il vient, c'était un libéral. Mon beau-père était chez moi. Et alors mon mari, tiens, monsieur, je ne sais pas comment il s'appelait, c'est un monsieur qui est bien, enfin. Mon beau-père a monté dans une colère noire parce que ce monsieur-là n'était pas socialiste. Il a discuté avec mon mari en disant qu'il ne fallait pas qu'il vote pour lui, qu'il fallait qu'il vote pour les socialistes. Alors je dis, pourquoi se disputer pour des bêtises pareilles? Tu fais ce que tu veux quand tu es dans l'urne, tu votes pour qui tu veux. Mais il ne le fait pas tout le monde. Mais, d'ailleurs, à la régie d'électricité, Jumet, ce n'était que des socialistes.
Ben, Jumet l'est, hein, madame. Et socialiste, hein, Jumet.
De tout côté, François aussi.
Je reviens alors à la guerre et à cette dimension socialiste, qui ont toujours été là, parce que les industries ont toujours été là, ici, dans la région. Pendant la guerre, c'était quoi, les... ça représentait quoi?
Il n'y avait pas de...
Il n'y avait rien de tout, de tout ça, monsieur. On ne parlait pas de tout ça. D'ailleurs, vous ne pouviez pas parler de tout ça.
Vous ne
Parce que les Allemands empêchaient qu'on parle de politique. On pouvait parler des horaires, des salaires et ce genre de choses.
On ne parlait pas de tout ça, monsieur. Ravitaillement, et dit
tout.
Le joug était trop fort pour ces considérations-là. Les personnes de l'administration communale, ils étaient désignés par les Allemands. Alors.
Oui.
C'était les anciens. On leur fichait la paix.
Oui. Le bourgmestre, donc Jean de Marais, je ne sais pas, est-ce que le bourgmestre devait être remplacé contre l'armée, ça je ne me souviens pas.
D'ailleurs, le bourgmestre qui a été nommé par les Allemands, les résistants l'ont tué sur la rue, à Charleroi.
Vous vous souvenez de ce moment ?
Oui.
Qui ça ? C'était qui était bourgmestre à l'époque ?
Ils l'ont tué.
C'était qui ?
Les résistants qui l'ont tué, mais après, ça a été mal pour nous.
Pourquoi ?
Les représailles ont été terribles. Oui, oui.
Ça s'est passé pendant la guerre, pas à la libération.
Oui, pendant la guerre, ça.
Et c'était qui ?
Et après la guerre, bien sûr.
Le bourgmestre de Marais, alors, dont parle Madame Zos.
Son nom, je ne sais plus, moi.
Mais il y en a un à Charleroi,
Oui.
Parce que de Marais, c'était Ransard. Il était bourgmestre de Ransard.
Non. Je n'ai pas connu, lui.
Non.
Je n'ai pas connu, moi.
Il n'est pas resté longtemps, mais non, il a été tué. Pas longtemps après sa nomination.
Oui, donc ça fait deux bourgmestres du Grand Charleroi, disons, qui ont été assassinés par la résistance locale.
Celui que je vous parle a été tué par les résistants. Ransard, je ne sais pas, je ne connais pas.
Et donc il y a eu des représailles après.
Des représailles.
Comment
ça, il y en a eu.
Des morts, des fusillés.
Oh, des fusillés.
Fusillés.
À la caserne Trésigny et à la caserne de au Chantir à Marcinelle. Ouais, bon. On faisait sur place.
Les Allemands.
Ok.
Et les Rexis.
Mais après, les Rexis ont été le dos au mur aussi.
Ah oui, il y a eu des reprises.
Oui.
Pendant les années d'occupation, est-ce qu'il y a eu des élections ? Est-ce qu'il y a eu différents partis ?
Non, non, non. On n'avait rien à dire. Des élections ?
Un simulacre, ça aurait pu être un simulacre d'élections.
Non, rien de tout ça. Ça n'existe pas.
Juste le timbre.
Pour le rationnement.
Oui.
Ça marchait comment les timbres, comment vous les obteniez, etc.
Ben, ça, il fallait aller chercher, je ne sais plus où. Il y avait les timbres pour la viande, pour tout.
Ils étaient différents, un bleu pour la viande.
Le noir pour la viande, et un orange pour le sucre, enfin pour toutes les denrées. Quoi.
Comment c'était distribué ?
Ben, c'était des feuilles.
Oui.
C'était par famille.
C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais.
Et donc, alors, c'était l'administration communale qui gérait
oui,
ça
oui, 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 c'est oui. ça. Exactement.
Oui. Mon père, il travaillait pour la goudronnerie Robert à France. Il faisait beaucoup les Ardennes. Et les fermiers lui disaient, n'auriez pas un seau de goudron pour mettre nos clôtures. Eh bien, mon père, il a fait comme tout le monde. Un seau de goudron.
Un lapin.
Non, du froment. Et alors, on allait faire moudre à Melun, à pied. On allait faire moudre le froment.
Nous, ce qui nous a fait vivre pendant la guerre, c'est le marché noir.
Oui.
C'est tout.
Il y en a qui se sont enrichis. Tout passait au marché noir.
Oui, mais même il était libre en nous de le faire ou de ne pas faire, hein, madame.
Ça, oui.
Non.
qu'est-ce qui, enfin, ceux qui sont devenus riches, c'est parce qu'ils avaient des ressources.
Ceux qui ont fait le marché noir, mais en grande.
Les grande fermiers échelle. Chez nous, ils avaient une charrette et un cheval. Et maintenant, ils ont des tracteurs comme des maisons. C'est tout.
C'est vrai que les fermiers étaient bien placés pour.
Tiens!
Engranger, disons.
Ben, vous savez,
bien sûr, hein, monsieur. Ils avaient.
On fait le trafic. Hein. On fait le marché. Voilà.
De quoi faire?
Qu'est-ce qu'ils risquaient?
Voilà. Je crois que je me sais.
On allait chercher. Moi, j'allais toutes les semaines chercher une livre de beurre à la ferme.
Facilement.
Facilement.
Sans peur.
Sans peur. Et... Oui. J'allais chercher du lait battu toutes les semaines pour faire le pain.
Il y avait une tolérance des Allemands vis-à-vis du marché noir. Bah, ils fermaient les yeux.
Il n'y avait pas de marché noir quand les Allemands étaient là. Hein. Il n'y avait pas de marché noir. Hein. Ils raflaient tout. Ah, oh, tiens. Peu de choses, du moins. Hein.
On ne savait pas avoir grand-chose.
Hein. Non, hein. Non, hein.
Et donc, il a fallu attendre qu'il soit parti.
Moi, toute la guerre, j'ai été chercher le beurre. Hein. Un pain au marché noir, c'était 100 francs.
Qu'est-ce qu'on mangeait, finalement?
Peu de choses.
Un pain ravitaillement.
Peu de choses.
On t'amusait. Ma mère, elle a toujours fait son pain toute la guerre. Mmh. Elle t'amusait la farine. Mon père, qui trafiquait un petit peu son goudron, a rapporté de la farine.
Il y avait un rationnement. Et pourtant, on continuait à produire, on continuait à cultiver, je suppose. Elle partait où, cette nourriture?
Comment dites-vous?
Elle partait où, la nourriture et les produits qu'on produisait?
Du côté, alors. Pour l'Allemagne. Hein.
L'Allemagne.
Ah oui. Hein.
Quand vous pensez dire le mot, c'était en Belgique.
Pour l'Allemagne, monsieur.
Mais seulement on était rationnés en sucre. Mais nous, au café, oui, mes parents ont bu le café jusqu'en 45. Depuis 35. Alors, vous voyez ce qui est passé.
Oui, le commerce n'a jamais arrêté chez vous.
Non. Non.
C'est les fournisseurs qui pouvaient changer.
C'est-à-dire que nous avions... c'était une succursale des brasseries de Malmédie. Donc, nous, comme on avait la Malmédie, ils nous ont donné l'autorisation d'acheter à d'autres brasseries. Parce qu'on a commencé à lancer les bières anglaises.
Pendant la guerre?
Non, après la guerre.
Pendant la guerre, il n'y avait que la Malmédie.
Oui, encore. De la brasserie des Alliés à Marchienne. Des brasseries d'ici des environs.
Ça continuait. Pendant la guerre, ça continuait à fonctionner, tout ce travail-là.
Mais c'était. Comment est-ce qu'ils appelaient? La zéro, la double zéro.
Merci monsieur, merci madame Goss. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode.